Le journal, bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, écologie et gros contrats en rafale, mais où est passée la question des droits de l'homme? Emmanuel Macron achève sa visite d'État en Chine et s'explique sur sa discrétion sur la question des libertés, on l'écoutera. On verra aussi ce que peut changer le retour du bœuf français en Chine qu'il a annoncé. Des étudiants brûlés en guise d'intégration, l'école des arts et métiers d'Angers réunit aujourd'hui sa commission de discipline. Témoignage dans ce journal d'une étudiante qui avait refusé de subir ses sévices. Le permis ou le portable, il faudra choisir. Le gouvernement s'attaque à l'usage du téléphone au volant. On ira au salon du high-tech de Las Vegas, voir comment les professionnels ont déjà anticipé ces mesures. À 8h20, votre invité Nicolas, question sur la politique migratoire en France. Vous recevez le patron de l'OFPRA.
Pascal Brice, directeur effectivement de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mes questions dans une vingtaine de minutes, les vôtres vers 8h40, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, les soldes qui rétrécissent, ils devraient passer à 4 semaines au lieu de 6 l'an prochain. Aux États-Unis, la descente aux enfers de Steve Bannon, l'ancien idéologue de la Maison-Blanche, est viré par son dernier employeur. Et puis en France, la retraite d'un champion centenaire, Robert Marchand, 106 ans, raccroche définitivement son vélo. Des contrats plein les poches pour Emmanuel Macron qui boucle donc ce matin sa visite d'État en Chine. Mais avant de prendre l'avion du retour, dans un peu moins d'une heure maintenant, il a terminé son voyage comme il l'avait commencé, sur le thème de l'urgence climatique. À Pékin, Dominique André.
Sur les hauteurs de Pékin, Emmanuel Macron a visité ce matin le satellite franco-chinois qui sera lancé en septembre prochain. Il pourra mesurer les effets du vent sur les océans et prévoir ainsi les tempêtes. La lutte contre le dérèglement climatique ouvre des perspectives immenses pour les entreprises françaises, confirme Xavier Ruffray, le directeur de la société Biotope. C'est un spécialiste de la restauration de la biodiversité très abîmée en Chine.
Il y a une prise de conscience très importante depuis que le président Xi Jinping a demandé à ce qu'il y ait une nouvelle ère qui s'annonce en Chine sur la création d'une civilisation écologique. Et donc il y a beaucoup de travail sur tout ce qui est restaurer un peu le cadre de vie des Chinois, très fortement dégradé dans toute la Chine, à proximité des grandes villes comme Pékin, Shanghai, etc.
Un nouvel acteur, c'est la finance verte qui va contribuer à financer la lutte contre le dérèglement climatique. Arnaud de Bresson est le directeur de Paris Europlace qui assure la promotion de la place financière de Paris, notamment en Chine.
Nous sommes en coopération avec la Banque Centrale Chinoise pour développer les émissions vertes, notamment en Chine, et pousser le développement des produits verts, de l'investissement dans l'environnement, dans des initiatives franco-chinoises.
L'offre française est importante dans tous les domaines de la lutte contre le dérèglement climatique, a vanté Emmanuel Macron. Elle est aussi créatrice d'emplois. Pékin, Dominique André, France Inter.
Voilà pour le climat, thème plutôt consensuel, la Chine étant devenue l'un des bons élèves en la matière. Mais ce qui l'est moins sur place, c'est bien sûr la question des droits de l'homme, toujours urticante à Pékin. Emmanuel Macron avait promis d'en parler, et s'il l'a fait, eh bien ce n'était pas en public. Il s'en est d'ailleurs expliqué lors d'une visite d'un atelier d'artistes.
Je peux me faire plaisir et donner des leçons à la Chine en parlant à la presse française. Ça s'est beaucoup fait, ça n'a aucun résultat. Et ça méconnaît d'ailleurs des distances qui sont aussi des distances culturelles profondes, des choix profonds de société. Et donc je préfère sur ce sujet favoriser des messages qui sont clairs et que j'ai eu en présence du président, mais ensuite œuvrer dans un dialogue intime que nous avons ensemble et en respect, parce que je pense aussi que c'est plus efficace.
Emmanuel Macron au micro de Julie-Marie Lecomte. Pendant ce voyage, c'est aussi le stylo du président qui a chauffé avec une série d'accords commerciaux, 10 à 12 milliards d'euros pour Areva, qui va construire une usine de retraitement de déchets nucléaires, plus de 3 milliards pour Safran, qui va livrer des moteurs à la Chine, sans oublier une ouverture qui pourrait faire du bien aux éleveurs français, le retour annoncé du bœuf made in France dans les assiettes chinoises. Il était sous embargo depuis 2001 et la crise de la vache folle. Manuel Ruffez.
En France, comme en Europe, d'ailleurs, la consommation de viande bovine est en baisse. Alors, à prendre aujourd'hui que l'immense marché que représente la Chine s'ouvre à nouveau, la Chine première importateur mondial de bœuf, avec une consommation encore faible qui pourrait au moins tripler dans les années à venir, pas de doute, la nouvelle est bonne. Guy Hervoué de l'interprofession bétail et viande.
Ça représente de l'espoir, parce que aujourd'hui, on est dans une situation économique en viande bovine plutôt fragile. D'ouvrir un marché supplémentaire et un marché qui reconnaît la qualité de l'élevage français. Et là, la Chine est très intéressée pour un créneau de marché.
Et la France, pense Guy Hervoué, peut très facilement trouver sa place face aux principaux fournisseurs actuels de la Chine.
Nous apportons autre chose qu'apportent les pays d'Amérique du Sud, l'Australie et tout ça. Notre façon de produire, pas d'antibiotiques, pas d'activateurs de croissance, pas d'hormones, sans OGM. Nos animaux sont à l'herbe. Donc c'est aussi ce que les Chinois, quand ils viennent en France, reconnaissent de cette qualité-là.
Difficile encore de chiffrer ce que pourrait représenter ce marché chinois pour les producteurs français, mais aujourd'hui, tous les débouchés sont bons à prendre.
Il est 8h05, des étudiants marqués au fer blanc, mais personne pour porter plainte.
À Angers, la direction de l'école des arts et métiers a convoqué aujourd'hui une commission de discipline. Après les violences commises en octobre dernier lors d'une soirée de bizutage, l'une des épreuves consistait à brûler le bras des étudiants de première année avec une cuillère chauffée à blanc. 16 d'entre eux ont subi ces sévices, mais aucun n'a porté plainte par crainte, sans doute, de représailles. C'est ce que raconte cette ancienne étudiante. Ces violences et ces rituels, entre guillemets, elle les a refusés et elle témoigne aujourd'hui anonymement.
On avait des réunions donc qui nous étaient données par les deuxièmes années, nos anciens. On devait tous se réunir dans une salle avec très peu de lumière. Et c'est aller pour certaines personnes se faire démolir, en fait, hein, verbalement, c'était ça. Hein. Nous répéter suffisamment fort et suffisamment longtemps qu'on n'y arriverait pas, qu'on était nuls, pour qu'on finisse par y croire. On arrive en première année, on est éloigné de sa famille, de ses amis, donc on se retrouve dans une nouvelle communauté et on se retrouve à ne vivre plus que ça. Et à un moment, on finit par l'intégrer et ça nous semble normal. On est tous très fatigués, il y a un gros manque de sommeil. Et on finit par faire confiance aveuglément en fait en nos deuxièmes années. On perd en quelque sorte tout esprit critique. Ce qui a pu se passer avec par exemple les cuillères finalement, c'est qu'à aucun moment un première année ne s'est rébellé contre le deuxième année. À aucun moment ils ont dit que ça leur faisait mal.
Témoignage recueilli par Guillaume Dreschler, encore un policier agressé, cette fois dans l'Essonne. Il intervenait sur un accident de la route près de la cité des Tarterets à Corbeil quand un groupe de jeunes l'a pris pour cible. Il a été blessé par un jet de pavé. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, reçoit justement les syndicats de policiers après la série d'agressions dont ils ont été victimes. Les permis de conduire vont-ils tomber les uns après les autres? Après le tour de vis annoncé hier par le gouvernement, 18 mesures pour faire reculer la mortalité routière, certaines attendues, comme le passage à 80 km/h sur les routes secondaires. Autre nouveauté, la chasse au portable au volant à partir de l'an prochain. Le fait de tenir un téléphone lorsqu'on commet une infraction, comme par exemple l'absence d'un clignotant, donnera lieu à une suspension de permis. Elle ira de 3 jours à 6 mois. Voilà donc les automobilistes trop bavards prévenus, à moins que les nouvelles technologies ne volent à leur secours. Car dans les allées du CES, le grand salon du high-tech qui se tient en ce moment à Los Angeles et où se trouve l'envoyé spécial de France Inter, Hélène Chevalier, eh bien, on a déjà trouvé la parade.
Tout simplement en remplaçant le téléphone par la voix. Après nos maisons, les assistants vocaux et leur intelligence artificielle débarquent dans les voitures.
Hey Google, navigate to work. Dirige-moi jusqu'à mon travail.
Ok, work. Here we go.
Grâce à ses assistants, le conducteur peut, sans avoir à quitter les yeux de la route, consulter son agenda, répondre à des SMS, lancer sa musique préférée ou augmenter la température de la voiture. Le français Newport IMS lancera d'ici la fin de l'année Phoebe, une intelligence artificielle capable de trouver une place de parking et de la payer, ou de raconter l'histoire du monument devant lequel elle vient de passer. Jérôme Caudrelier.
On est complètement à la voix et uniquement à la voix. Il y a juste des indicateurs visuels qui vont permettre d'avoir une identification, de savoir si Phoebe vous écoute, vous parle, ou si elle est en train de chercher, finalement d'aller interroger les services pour pouvoir vous faire une proposition qui corresponde à votre besoin. Il n'y a aucun écran, il n'y a pas de ce qu'on appelle de distraction du conducteur, pour aussi assurer une plus grande acuité dans le fait de conduire.
Mais cela, c'est en attendant l'arrivée des voitures autonomes, où à l'inverse, les conducteurs auront tout loisir de quitter les yeux de la route et se distraire. Las Vegas, Hélène Chevalier, France Inter.
Décidément, on se bouscule devant le portillon du PS. Un nouveau candidat se déclare ce matin, c'est Olivier Faure, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, quatrième déjà à briguer les suffrages des militants fin mars. On en parle moins ces derniers jours, mais un nouveau drame vient de se produire en Méditerranée. Une centaine de migrants partis de Libye sont portés disparus, leur embarcation a chaviré. 17 personnes ont pu être secourues après avoir attendu plusieurs heures accrochées à des bouts de leurs canots pneumatiques. Le passage de migrants a fortement diminué l'an dernier en Méditerranée au prix d'accords passés avec la Libye pour qu'elle les empêche de traverser. La question sera sur la table ce soir à Rome lors d'un mini sommet européen. Aux États-Unis, c'est la chute de l'homme qui murmurait à l'oreille du président, le champion de la droite ultra-conservatrice, Steve Bannon, déjà écarté de la Maison-Blanche. Ses relations avec Donald Trump sont devenues glaciales et voilà qu'il perd son dernier pouvoir. Le site d'extrême droite Breitbart News qu'il dirigeait vient à son tour de lui lui montrer la porte, Grégory Phillips.
Il y a un peu plus d'un an et dans la foulée de l'élection de Trump, Steve Bannon avait un bureau dans l'aile ouest de la Maison-Blanche et un accès direct au président. Il était la voix de cette Amérique radicale, nationaliste et identitaire. Mais depuis, Bannon a perdu son poste de conseiller stratégique auprès de Trump et aujourd'hui, il est remercié par le site internet Breitbart News, qui reste l'un des médias les plus puissants de la droite alternative américaine. La famille Mercer, principal actionnaire du site, n'a pas apprécié les commentaires de Bannon sur Trump et ses proches, publiés la semaine passée dans le livre Fire and Fury du journaliste Michael Wolff. Aujourd'hui, l'idéologue Bannon n'a donc plus de pouvoir, plus de financement et ne dispose plus du porte-voix que représentait Breitbart News, lui qui comptait peser dans les élections de mi-mandat de novembre en soutenant notamment des candidats anti-établissement. La droite nationale et identitaire n'a plus de champion, à moins que Trump parvienne dans les prochains mois à la mobiliser encore sur son nom et son programme. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et ils ont grandi devant les écrans et avec Internet, mais comment mettre le numérique au service des écoliers et de l'apprentissage? Chercheurs, enseignants et start-up se retrouvent aujourd'hui à Paris pour faire le point sur la vingtaine de projets déjà expérimentés. Parmi eux, il y a la Twictée, ou comment rendre la dictée plus attractive et plus interactive. Elle est testée par deux classes de CM2 de Seine-et-Marne, deux classes situées dans deux écoles et qui communiquent et corrigent leurs copies par le biais du réseau Twitter. Reportage Sonia Bourg.
Donc je vous rends vos feuilles de groupe.
Les enfants travaillent par petits groupes. Ils ont fait la même dictée que la classe partenaire et se corrigent. Explication de Malia et Lina.
On a fait la dictée tous ensemble. Alors là, on va écrire les erreurs que l'autre classe elle a fait. Le groupe de l'autre école, il a fait une erreur à début. Ils ont oublié de mettre l'accent aigu sur le E de début. On va leur expliquer pourquoi ça s'écrit comme ça et pourquoi ça s'écrit pas comme ils ont écrit.
Les élèves rédigent ensuite un tweet qu'ils montrent à Yannick Choulet, leur professeur, avant de l'envoyer.
Ça s'accorde en genre et en nombre avec les messages. C'est parfait, c'est bien Mathilde, vas-y.
Tu prends une tablette,
oui, tu peux tweeter. On commence par le stylo, on commence par les feuilles. C'est la communication qui change tout. C'est le fait de travailler avec d'autres classes, d'ouvrir les portes de la classe virtuellement, mais de dire, voilà, on va travailler avec une classe à Melun, ça peut être au fin fond du Canada, ça peut être dans la Creuse, ça peut être n'importe où. Là, l'orthographe prend un sens important puisqu'on est dans une démarche de communication et il faut communiquer sans erreur. Et ça donne l'envie de bien faire, ça donne une motivation supplémentaire.
Et d'après Manon, c'est efficace.
Je fais moins de fautes qu'en tout début d'année, parce qu'on ne faisait pas la Twictée. On s'aide et c'est beaucoup plus facile que travailler tout seul.
Bien sûr, la Twictée n'est pas une baguette magique, mais un outil parmi d'autres pour faire progresser les élèves.
Tu surprends et tu montres le mot numérique.
Reportage Sonia Bourhan. Là, promis juré, il ne s'agit pas de copier sur la copie de son voisin, mais la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, était à Londres hier. Alors qu'elle doit gérer le chantier de la réforme de l'audiovisuel public, la ministre est allée voir ce qui se passe de l'autre côté du Channel, du côté de la BBC, le plus grand groupe audiovisuel du monde. Alexandra Akoun.
Radio, télévision, web, national, international. Ici, toute la chaîne de production d'information est réunie en un seul lieu, au sein d'une même entité. 5000 personnes réparties sur les 6 étages de la BBC Broadcasting House. Des programmes en 40 langues. Début d'une visite au pas de charge pour Françoise Nyssen par le service Afrique qui émet notamment en français.
Les breaking news ne sont plus sur les médias traditionnels. On fait nos breaking news sur Twitter, Facebook, Instagram.
Et donc là, qu'est-ce qui est le plus vu ?
Depuis 2010, la BBC a massivement investi dans le numérique, modifiant profondément les habitudes de travail. Alors, premier constat pour la ministre.
Ça donne terriblement envie.
La Bib, comme on la surnomme, a aussi changé en 2017 son mode de gouvernance, remplacement du trust par un conseil d'administration nommé au tiers par l'État et une régulation désormais assurée par l'Ofcom, équivalent du CSA. Là, c'est Sir David Clementi, président de la BBC, qui se charge des explications. Loin des micros. Est-ce à dire quelle est là l'ambition pour l'audiovisuel tricolore? Une BBC à la française? L'idée fait bondir la ministre.
Pourquoi parler de BBC à la française? Nous, on a notre audiovisuel et on réfléchit à cela. Et il n'y a pas un modèle, il y a des réflexions à mener et on se nourrit.
Et on n'en saura pas vraiment plus, si ce n'est qu'après la Grande-Bretagne, Françoise Nyssen pourrait se rendre en Norvège et au Canada. Londres, Alexandra Akoun, France Inter.
À chaque gouvernement, ou presque, sa réforme des soldes, celui-ci n'échappe pas à la règle. Dès l'an prochain, les soldes d'été et d'hiver devraient être raccourcis 4 semaines au lieu de 6. À cela s'ajouterait une nouveauté, des soldes éclairs de 2 ou 3 jours au mois de novembre ou au printemps sur le modèle du Black Friday américain. En attendant la réforme aujourd'hui, ce sont des soldes classiques qui débutent dans la plupart des magasins. Ils vont durer jusqu'au 20 février. On ne le verra plus chasser les records du monde sur son vélo. Robert Marchand annonce qu'il met un terme à sa carrière. Vous vous souvenez forcément de lui qui, à 105 ans l'année dernière, avait établi le record du monde des centenaires en parcourant plus de 22 km en une heure. Il serait bien reparti encore un peu, mais c'est son médecin qui l'a convaincu de ranger son vélo.
Il y a la tension qui déconne. Des fois, elle monte jusqu'à 18, 20. C'est pas possible.
Ça veut dire que vous ne tenterez plus de record du monde?
Ah non, c'est terminé. J'en ai trois, c'est terminé. Je ne roule plus sur la route. Le vélo, c'est fini. C'était la seule chose qui m'intéressait. Je suis triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Tout a un commencement, puis tout a une fin. Hein, c'est comme ça la vie.
Voilà, Robert Marchand avec Valérie Lombardo de France Bleu Drôme Ardèche qui promet tout de même de continuer à pédaler, mais sur son vélo d'appartement. Enfin, voici les nominés aux prochaines victoires de la musique. On les connaît depuis hier soir. Pour les artistes féminines, la victoire se jouera entre Catherine Ringer, Charlotte Gainsbourg et Louane. Chez les hommes, Bernard Lavillier sera face à deux rappeurs, Soprano et Orelsan. Cérémonie à suivre sur France 2 et France Inter. Ce sera le 9 février prochain. Un hommage sera également rendu à France Gall et à Johnny Hallyday. Johnny qui aura également le droit à une messe, sachez-le, une fois par mois à l'église de la Madeleine à Paris, là où se sont déroulées ses funérailles. C'est le curé de la paroisse qui l'annonce. Il explique qu'il n'est pas spécialement fan du chanteur, mais que les vrais fans y viennent toujours par dizaines chaque jour brûler des cierges ou déposer des fleurs et qu'il ne pouvait pas y rester insensible.
Merci Marc Fauvel.